Chapitre 2. Le trajet jusqu'à la salle à manger fut un cauchemar, une succession de heures et de haltes, de sursauts et d'écarts qui semblaient rendre le parcours impossible. Quand il toucha enfin au but, on le fit asseoir à côté d'elle. La batterie des couteaux et des fourchettes dressa des épouvantes devant ses yeux. Comme il les observait, fasciné, leurs reflets lui renvoyaient, tels les facettes d'un miroir, des images de postes d'équipage où ses compagnons et lui mangeaient du bœuf salé avec des canifs et puisaient une épaisse soupe de pois dans des écuelles avec des cuillères de fer bosselé. L'odeur rance du bœuf était encore dans ses narines et les bruyantes mastications des matelots résonnaient encore à ses oreilles, parmi le grincement des poutrelles et le gémissement des cloisons. En les regardant faire, il se dit qu'ils mangeaient comme des porcs. Eh bien, ici, il serait sur ses gardes et s'appliquerait, jusqu'à la fin du repas, à n'émettre aucun bruit. Il regarda autour de la table. En face de lui, il y avait Arthur et son frère Norman, qu'il portait déjà tous deux dans son cœur, puisqu'elle était leur sœur. Comme ils s'aimaient dans cette famille. Les embrassades de la mère et de la fille tout à l'heure avaient été une révélation pour lui. Dans son entourage, on ne voyait jamais de telles marques d'affection entre parents et enfants. C'était le plus charmant spectacle que lui eût offert jusqu'ici ce monde supérieur, qui lui semblait atteindre des hauteurs d'âme insoupçonnées, le bouleversait et l'attendrissait de façon inattendue. Toute sa vie, il avait été tenaillé par une faim d'amour comme par un besoin organique de son être, mais, endurci par l'habitude de la privation, il avait appris à s'en passer. Il en éprouvait le manque sans le savoir, et, lorsqu'il en était témoin, comme maintenant, il s'en émerveillait, le trouvait beau, élevé, splendide. Il se félicitait que M. Morse ne fût pas là. C'était déjà assez difficile de lier connaissance avec elle, sa mère, son frère Norman. Avec Arthur, c'était déjà fait, plus ou moins. Si le père eût été là, l'épreuve eût été tout bonnement insurmontable. Il avait l'impression de n'avoir jamais autant peiné de sa vie. Les tâches les plus dures étaient des jeux d'enfants en comparaison. De petites gouttes de sueur perlaient sur son front et sa chemise était trempée. Que d'efforts à la fois. Il devait non seulement manger selon un rituel étrange, se servir d'ustensiles inconnus en essayant d'imiter discrètement les gestes des autres, assimiler le flot d'impressions nouvelles qui s'imprimaient dans son esprit en les annotant et en les classant, mais encore résister au lancinant et douloureux appel du désir qu'elle lui inspirait tout en élaborant d'improbables tactiques d'approche pour la conquérir. Et chaque fois que ses yeux se posaient sur Norman ou un autre convive, qu'il surveillait subrepticement pour être sûr de ne pas se tromper de couteau ou de fourchette, il jaugeait les traits de leur visage pour essayer de deviner la place qu'ils occupaient dans le cœur de la belle. En outre, il devait soutenir la conversation, écouter ce qui se disait autour de lui et, au besoin, répondre dans une langue châtiée qui ne lui était pas coutumière. Pour ajouter à sa confusion, il y avait le serviteur, incessante menace qui apparaissait silencieusement derrière son épaule, tel un sphinx s'amusant à lui poser des énigmes qui exigeaient des réponses immédiates. Tout au long du repas, il fut omnubilé par l'idée des rince-doigts. 20 fois, 100 fois, il se demanda à quel moment ils entreraient en scène et à quoi ils ressembleraient. Tôt ou tard, dans quelques minutes peut-être, ces objets mystérieux dont on lui avait parlé seraient posés devant lui, et puisqu'il était assis à la même table que les êtres éthérés qui s'en servaient, il devrait s'en servir aussi. Mais cela n'était rien encore. Une question obsédante le rongeait depuis le début. Quelle attitude devait-il adopter? La solution de facilité consistait à faire semblant, à jouer un rôle, mais une crainte lucide lui commandait de se défier de cette option, car elle allait contre sa nature et l'exposait au ridicule. Pendant la première partie du dîner, ce débat intérieur le fit paraître extérieurement calme. Il ignorait que son silence démentait les propos qu'Arthur avait tenus la veille, lorsqu'il avait annoncé aux siens qu'il allait amener un sauvage à leur table, mais qu'il ne devait pas s'en alarmer, car c'était un sauvage fort intéressant. Jamais Martin Eden n'eût pu soupçonner une telle duplicité chez un frère de route, surtout chez ce frère-là, qu'il avait sauvé d'une rixe extrêmement fâcheuse. Il était donc à la fois perturbé par sa propre inadéquation et charmé par tout ce qui se passait autour de lui. il découvrait qu'un repas pouvait être autre chose qu'une fonction alimentaire. Il ne savait pas ce qu'il mangeait. Pour lui, ce n'était que de la nourriture. À cette table où manger était un acte esthétique et même intellectuel, il se repaissait de beauté. C'était surtout son esprit qui était en appétit. Il entendait des mots dont il ignorait le sens, d'autres qu'il n'avait rencontrés que dans des livres et qu'aucun homme ou femme de sa connaissance n'eût été capable de prononcer. Chaque fois que de tels mots tombaient négligemment des lèvres d'un membre de cette merveilleuse famille, sa famille à elle, il était en extase. La beauté idyllique et l'élévation spirituelle des livres devenaient réalité. Il était dans cet état rare et béni que l'on éprouve en voyant ses rêves quitter les chasses du fantasme pour entrer dans le domaine des faits. Jamais auparavant, il n'avait plané à une pareille hauteur. Il restait en retrait, se contentant d'écouter, d'observer, de savourer et de répondre par monosyllabes réticents des « oui mademoiselle, non mademoiselle » ou des « oui madame, non madame ». Il s'interdisait toutefois de dire « oui monsieur » ou « non monsieur » à ses frères, car c'est ainsi qu'on s'adresse à un supérieur hiérarchique dans la marine et c'eût été un aveu d'infériorité qui l'eût mise en mauvaise position pour conquérir la sœur. Et puis sa fierté regimbait. « Bon Dieu !» se disait-il. « Je vaux autant qu'eux. Ils savent peut-être des tas de trucs que je sais point, mais je pourrais leur en apprendre pas mal, moi aussi. » Et, l'instant d'après, lorsque sa mère ou elle l'appelait « Monsieur Eden », son agressivité retombait et il fondait de plaisir. C'était un homme civilisé, oui, voilà ce qu'il était. Et il dînait d'égal à égal avec des gens sortis d'un livre. Il se croyait lui-même dans un livre imprimé et relié qu'il parcourait à l'aventure, de page en page. Mais tout en contredisant, par l'image de 12 agneaux qu'il donnait de lui, la description d'Arthur, qui en avait fait un sauvage, il se creusait la cervelle pour dresser un plan d'action. Il n'était pas un 12 agneaux et le rôle de second violon ne seyait pas à sa nature dominatrice. Il ne parlait que lorsqu'il y était obligé et, cependant, son discours était aussi gauche, aussi heurté et hésitant que sa façon de marcher jusqu'à la table tout à l'heure. Empêtré dans son vocabulaire polyglotte, il butait sur des mots qu'il savait justes, mais qu'il craignait de mal prononcer, et en rejetait d'autres, dont il était sûr, mais qui risquaient d'être incompris ou de paraître vulgaires. Plus il doutait, et plus il s'enlisait, car il sentait que son manque d'assurance passait pour de la sottise et l'empêchait d'exprimer le fond de sa pensée. Autant d'entraves qui meurtrissaient son amour de la liberté, comme son col amidonné meurtrissait son cou. Il était d'ailleurs convaincu d'avance qu'il ne tiendrait pas l'épreuve. Il était trop éveillé, trop sensible. Sa personnalité réelle ruait dans les brancards, se débattait dans les affres de l'accouchement pour voir le jour, pour pouvoir s'exprimer. Alors, il oubliait où il se trouvait et les vieux mots, les outils du langage qu'il connaissait, refaisaient surface. Un moment, importuné par le serviteur qui s'impatientait derrière son épaule, il le rembarra par un « pouf !» exaspéré. Aussitôt, tous les regards se portèrent vers lui et le domestique eut un sourire sournois. Mortifié, il chercha à se racheter. « Ça veut dire « terminé » en kanak, » expliqua-t-il. « Et ça m'est venu comme ça. Ça s'écrit « P-O-O ». Puisqu'il en était aux explications, et voyant qu'elle observait ses mains avec curiosité, il ajouta « Je débarque tout juste d'un steamer postal du Pacifique. Il avait du retard et on a dû marner comme des nègres dans les ports du Puget Sound pour charger la cargaison, du fret mixte, si ça vous dit quelque chose. C'est comme ça que je me suis pelé les mains. » « Oh non, ce n'est pas ce que je regardais, » rectifia-t-elle avec empressement. « Vos mains semblent trop petites pour votre corps. » Il rougit, croyant qu'elle venait de lui trouver un défaut supplémentaire. « Oui, » fit-il avec humilité, « elles sont pas assez fortes pour supporter le choc. Je peux frapper comme une mule avec mes bras et mes épaules, ils sont trop costauds et quand j'amoche la mâchoire d'un gars, je m'amoche aussi les mains. » Il n'était pas fier de ce qu'il venait de dire. Il se dégoûtait lui-même. Au lieu de tenir sa langue, il s'était laissé aller à parler de choses inconvenantes. C'était très courageux de votre part d'aider Arthur comme vous l'avez fait. Alors que vous ne le connaissiez pas, dit-elle avec tact, en devinant son désarroi, dont elle ne comprenait pas la raison. Cette sollicitude lui fit si chaud au cœur qu'il en oublia de nouveau de surveiller son langage. « C'était rien du tout, » dit-il. « N'importe qui aurait fait pareil. Cette bande de fripouilles cherchait des crosses et Arthur leur avait rien fait. Et ils lui ont tombé dessus. Alors je leur ai tombé dessus aussi, j'en ai assommé quelques-uns. Si j'y ai laissé des bouts de peau, eux, ils y ont laissé des dents. Oh malheur, j'aurais pas voulu manquer ça pour rien au monde, quand j'ai vu. » Il s'arrêta, bouche ouverte, au bord du gouffre où allait le précipiter sa propre indignité. Comment osait-il respirer le même air qu'elle ? Tandis qu'Arthur reprenait, pour la 20e fois, le récit de sa mésaventure avec les ivrognes sur le ferry et des prouesses de Martin Eden venues à sa rescousse, le dit Martin Eden, fronçant les sourcils, méditait sur ses ridicules et se torturait l'âme de plus belle en se demandant comment il devait se comporter avec ces gens. Jusqu'ici, il n'avait pas été très brillant. Il n'était pas de leur clan et ne connaissait pas leur dialecte. À quoi bon faire semblant ? Il serait vite démasqué. Et il n'avait jamais aimé les masques de toute façon. Il n'y avait pas de place pour l'artifice chez lui. Quoi qu'il lui en coûtât, il devait rester lui-même. Il ne parlait pas encore leur jargon, mais avec le temps, cela viendrait. Il y était décidé. En attendant, puisqu'il devait parler, il le ferait avec son propre langage, en veillant simplement à ne pas les choquer et en s'efforçant d'être compréhensible. En outre, en aucun cas, même tacitement, il ne prétendrait être familiarisé avec des choses qui lui étaient inconnues. Conformément à cette résolution, lorsqu'il entendit les deux frères employer à plusieurs reprises le mot « trigo » de leur argot estudiantin, Martin Eden n'hésita pas à demander « C'est quoi la trigo ?»« La trigonométrie, dit Norman, est une forme supérieure de maths. »« Et c'est quoi le maths ?» reprit-il au grand amusement de Norman. « Les mathématiques, l'arithmétique, » lui répondit-on. Martin Eden hocha la tête. Il venait d'avoir un aperçu d'un champ de connaissances apparemment illimité. Ce qu'il voyait devenait tangible. Son étonnante imagination visuelle donnait des formes concrètes aux abstractions. Dans l'alchimie de son cerveau, la trigonométrie, les mathématiques et toute la science que ces mots recelaient étaient transmués en autant de paysages. Il voyait des panoramas verdoyants et sylvestres, tantôt baignés d'une douce lumière, tantôt traversés d'éclairs. Les lointains disparaissaient dans un halo violet, mais il savait que derrière la brume, il y avait la splendeur de l'inconnu et l'appel du merveilleux. C'était pour lui comme un alcool. Là était l'aventure, un monde à conquérir avec la tête et les mains. Et l'idée de conquête fit aussitôt ressurgir dans sa conscience l'obscure pensée qui le hantait. La conquérir, la gagner, elle, cette pâle fleur de lys assise à ses côtés. L'attitude d'Arthur, qui toute la soirée s'était évertuée à faire ressortir son côté sauvage, jetait une ombre sur cette vision chatoyante. Mais Martin Eden n'avait pas oublié sa résolution. Il ne se cachait plus. La circonspection faisant place à la spontanéité, il redevint lui-même et se plut à brosser un tableau réaliste de sa vie devant son auditoire. Il avait été membre de l'équipage de la goélette de contrebandier Alcyon, quand elle avait été arraisonnée par les gardes-côtes. Revivant la scène en conteur inspiré, il leur peignit les flots déchaînés, les hommes et les navires avec une telle puissance d'évocation qu'ils finirent par voir de leurs propres yeux ce qu'il avait vu. Il choisissait les détails avec une habileté d'artiste, esquissant de grandes fresques enflammées, pleines de vie et de couleurs, qu'il animait avec tant de ferveur que ses auditeurs voguaient avec lui sur la vague de son éloquence sans phare et de son vibrant enthousiasme. Par moments, la crudité de son récit et de sa terminologie les choquait, mais la beauté faisait toujours suite à la violence, et l'humour au drame, grâce à ses commentaires sur les étranges réactions et les bizarreries de caractère des marins. La jeune fille le regardait avec des yeux ébahis. Elle se chauffait à son feu comme si elle se fût soudain réveillée d'un long hiver. Elle avait envie de se pencher vers cet homme brûlant comme un volcan en éruption, débordant de force, de robustesse et de santé. Elle ne se retenait qu'au prix d'un énorme effort et à cause d'une pulsion contraire qui l'incitait à se détourner de lui. Elle était rebutée par ses mains lacérées et calleuses qui semblaient porter, gravées dans leur chair, toutes les souillures de la vie, par cette rougeur près du col de chemise, par ses muscles saillants. Sa rudesse l'effrayait. Chaque écart de langage était une offense pour ses oreilles, chaque épisode tourmenté de sa vie, une offense pour son âme. Cependant, l'attirance persistait. Était-il un démon pour exercer un tel pouvoir sur elle? Tout ce qu'elle avait cru fermement établi dans son esprit vacillait. Ses aventures romanesques défiaient les convenances. Devant son insouciante audace et son rire facile, la vie n'était plus un cortège de travaux et de peines, mais un jeu aux règles changeantes que les joueurs enfreignaient et réinventaient selon leur humeur. « Eh bien, joue donc !» lui soufflait une voix intérieure. « Penche-toi vers lui, si c'est ce que tu veux, et pose tes deux mains sur son cou. » Son impudance faillit lui arracher un cri, et elle tenta vainement de se raccrocher aux valeurs de sa classe, d'opposer tout ce qu'elle était à tout ce qu'il n'était pas. Un bref regard alentour lui montra que les autres étaient captivés par le récit, et elle eût été ébranlée de les voir ainsi envoûtés si elle n'eût perçu de l'horreur dans les yeux de sa mère. Une horreur pleine de fascination, certes, mais de l'horreur néanmoins. Cet homme surgit des ombres du dehors était le mal. Sa mère l'avait deviné. Sa mère avait raison. Elle s'était toujours fiée au jugement de sa mère. Elle s'y fierait encore. La flamme de l'étranger était à côté beaucoup moins brûlante et il lui faisait déjà beaucoup moins peur. Plus tard, au piano, elle joua pour lui et contre lui, avec agressivité, pour qu'il mesurât bien l'étendue du gouffre qui les séparait. Sa musique était un gourdin qu'elle faisait tournoyer au-dessus de sa tête. Il en fut tout estourbi, mais la menace le stimulait. Il la contemplait avec stupeur. Dans son esprit aussi, le gouffre s'élargissait, mais plus il devenait infranchissable, plus son ambition le poussait à le franchir. Il était toutefois d'une sensibilité trop complexe pour rester béatement assis devant un abîme toute une soirée, surtout lorsqu'il entendait de la musique. Il était extrêmement réceptif à la musique. C'était comme un alcool fort qui embrasait ses sens, une drogue qui emportait son imagination à travers les nuées, loin des mondes sordides, qui inondait son âme de beauté et lui donnait des ailes. Il ne comprenait pas la musique qu'elle jouait. Jusqu'alors, il n'avait entendu que des pianos de bastringue et des orphéons braillards, mais il savait, pour l'avoir lu, que de telles musiques existaient, et il essayait de se former l'oreille en se laissant guider par son interprétation. Les ruptures de rythme l'intriguaient. Chaque fois qu'il croyait avoir saisi une ligne mélodique, celle-ci se dissolvait en une suite chaotique de notes sans signification pour lui, qui le faisait redescendre brusquement sur terre. Un moment, il se demanda même s'il n'y avait pas dans tout cela une rebuffade délibérée, et, devinant l'hostilité qu'elle mettait dans son jeu, tenta de déchiffrer le message que ses mains dictaient au clavier. Puis, balayant ses soupçons, qu'il jugeait indignes, il se laissa bercer par la musique sans arrière-pensée. Il fut bientôt gagné par le charme. Ses pieds ne touchaient plus terre. Sa chair devenait esprit. Derrière et devant ses yeux luisait une immense splendeur. La pièce disparut et il s'envola vers un autre monde, où le connu et l'inconnu se mêlaient à la féerie qui peuplait son imaginaire. Il pénétra dans des ports baignés de soleil, coudoya des indigènes qu'aucun homme n'avait jamais vus en visitant des souks tout imprégnés d'odeurs qui lui rappelaient ses nuits caniculaires à bord des navires chargés d'épices, longea les comptoirs du sud-est dans la torpeur des tropiques, sur une mer turquoise émaillée de récifs de madrépores. Les images défilaient à la vitesse de ses pensées. Tantôt, chevauchant un bronco, il galopait à travers le désert bariolé de l'Arizona. Tantôt, juché sur une hauteur, il contemplait le blanc sépulcre de la vallée de la mort qui miroitait sous la chaleur ou ramait sur un océan glacial entre de grands icebergs qui scintillaient au soleil. L'instant d'après, il était alangui sur une plage de corail hérissée de cocotiers caressée par la houle mourante, tandis qu'à deux pas, à la lueur bleue d'une vieille carcasse d'épave en feu, des danseurs de houla se déhanchaient sur des chants d'amour barbares, au son des tam-tams et des ukulélés, dans la volupté d'une nuit tropicale. Au loin, un volcan se dressait vers les étoiles, Un pâle croissant de lune dérivait dans le ciel et, au-dessus de l'horizon, brillait la croix du sud. Il était une harpe, dont les cordes étaient les divers épisodes de sa vie qu'une brise faisait vibrer comme des souvenirs ou des rêves qui s'égrènent. C'était plus qu'une simple sensation. C'était des formes et des couleurs qui, par magie, donnaient une réalité objective et sublime aux audaces de son imagination. Le passé, le présent et le futur se mélangeaient. Il allait parcourant le vaste monde, en quête de grandes aventures et de nobles actions pour elle et, ah, avec elle, gagnant son cœur, la serrant dans ses bras, survolait l'immensité de son royaume imaginaire. Et elle, qui l'épiait par-dessus son épaule, vit quelque chose de tout cela sur son visage. C'était un visage transfiguré, avec de grands yeux brillants perdus dans l'au-delà, qui semblaient apercevoir à travers le rideau des notes la source de vie où s'abreuvaient les fantômes de l'esprit. Elle était médusée. Le rustre empoté avait disparu. Ses vêtements mal coupés, ses mains écorchées et son visage brûlé de soleil étaient comme une cage emprisonnant une grande âme bâillonnée par une aphasie maladive. Cela ne dura qu'un instant. Une lubie passagère qui la fit sourire lorsque, dessillée, elle vit reparaître le rustre. Mais cette vision fugitive avait produit sur elle une impression durable, et, quand vint pour lui le moment de prendre congé, elle lui prêta le livre de Swinburne et un autre de Browning. Elle étudiait Browning dans un de ses cours d'anglais. Lorsqu'elle le vit rougir en bredouillant des remerciements comme un petit garçon, un élan de pitié maternelle monta en elle. Elle oublia le rustre, la grande âme emprisonnée et l'homme dont la virilité l'avait tant troublée, pour ne plus voir qu'un grand enfant qui lui tendait une main calleuse et rêche comme un grattoir, en balbutiant « La plus belle soirée de ma vie. Vous savez, je suis pas habitué aux choses. » Il regarda autour de lui comme une âme en peine. « Aux gens et aux maisons comme ça. C'est nouveau pour moi et ça me plaît bien. J'espère que vous reviendrez, » dit-elle, comme il saluait ses frères. Il mit sa casquette, battit en retraite tout confus et disparut. « Eh bien, comment l'as-tu trouvé ?» demanda Arthur.
« Très intéressant, » répondit-elle. « Une bouffée d'ozone. Quel âge a-t-il »
« 20 ans, presque 21. Je le lui ai demandé cet après-midi. Je ne pensais pas qu'il fût si jeune. »
« Et j'ai 3 ans de plus que lui, » songea-t-elle en embrassant ses frères pour leur souhaiter bonne nuit.